Ils conduisent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme n'est pas issu de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent « Est-ce là votre fils, dont vous, vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il donc qu'il voit maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler lui-même de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car déjà les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un reconnaissait en lui le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es disciple de celui-là. Nous, nous ne sommes disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant, que vous, vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. » Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruis. » Et ils le chassèrent dehors. Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit, « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons, aussi votre péché demeure. »
Qu'est-ce qui a rendu célèbres les frères Lumière, Auguste et Louis ? J'entends le murmurer. On va voir si vous avez juste. Alors, s'ils se sont basés sur des inventions existantes comme le phonographe ou le kinétographe d'Edison et Dixon. Eux, ils ont inventé le cinématographe, le fait de projeter un spectacle photographique en mouvement devant un public. Avant, ça se faisait devant une seule personne et eux, ils vont le faire devant tout un public. Et leur nom colle bien avec cette invention, n'est-ce pas ? Une lumière qui est projetée à travers un film. Et qui permet de voir les contours de personnages qui ont été filmés avant ça, pris en photo. C'est le début du cinéma. Ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, on est comme en train de découvrir une illustration grandeur nature d'une affirmation que Jésus a eue dans le chapitre 8. « Je suis la lumière du monde. » Et tout le chapitre 9 va nous donner les contours de personnes qui vont être vues par sa lumière, à travers sa lumière, grâce à sa lumière. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, je vous propose trois éléments pour le vérifier. Déjà, dans ce chapitre 9 qu'on a lu, au verset 5, il est dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Autrement dit, lui-même revient sur cette image qu'il avait déjà donnée. Il va opérer un miracle, rien d'autre que la guérison d'un aveugle né, quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière. Et ensuite, sa conclusion, il dit au verset 39, « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Tout ce chapitre 9 est donc une illustration de ce que Jésus est venu dans la lumière. Qu'est-ce qu'il va révéler? Qu'est-ce qu'il va mettre en évidence? C'est avec la lumière qu'on peut distinguer les couleurs, que vous voyez les vous pouvez avoir une idée des distances, des contours, les choses et les personnes. Et ici, dans ce récit, ce qui serait resté invisible devient visible. Les personnes bien respectables, en apparence avec un bon CV, vont finalement révéler des choses assez troubles, assez sombres. Et des personnes qui étaient tout à fait effacées, qu'on négligeait, elles vont révéler leur richesse parce que la lumière est venue dans le monde. Et j'espère, et c'est ma prière, que ce sera le cas pour nous aussi, en réfléchissant à ce passage, que cette lumière va briller dans notre cœur aussi et révéler ce qui a besoin d'être révélé. Il incarne cette lumière et il va mettre en évidence des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Comme la conclusion de Jésus en témoigne, il y a deux renversements qui se sont opérés, deux découvertes inattendues. Et on va le prendre comme plan. Quand ceux qui ne voient pas, voient. Quand ceux qui voient deviennent aveugles. Je ne vais pas mettre beaucoup de citations au PowerPoint ce soir parce que je trouve que le récit est magnifique et je vous invite, si vous avez les Bibles à suivre dans le texte, je vais citer pas mal d'éléments du passage, mais vous pouvez soit écouter ou soit suivre dans vos Bibles. Quand ceux qui ne voient pas voient, quels sont vos plus beaux souvenirs de vacances? Quelles sont les images qui restent gravées dans votre mémoire de cet été? Quelles sont les choses que vous avez décrites à des personnes qui vous ont demandé comment ça s'était passé? Quel paysage est-ce que vous avez décrit? Quel lieu? Ou alors les personnes que vous avez vues? Ou alors les milliers de photos que vous avez prises, les selfies que vous avez pris, les photos que vous avez mis sur Facebook. Maintenant, imaginez que vous n'ayez aucun souvenir, aucune image, rien du tout. Parce que vous êtes aveugle de naissance, vous n'avez jamais vu. Cet homme ici, que Jésus va guérir ou a guéri, n'a jamais vu. Il n'a jamais vu un coucher de soleil. Il n'a jamais vu un 360 degrés sur une montagne qui domine les autres. Il n'a jamais vu cela. Et c'est lui que Jésus choisit pour dévoiler une magnifique vérité à son sujet. On a l'occasion de le vérifier avec Jean. Il aime bien jouer avec les mots, ou relever plutôt comment Jésus joue avec les mots. On voit par exemple au chapitre 2 que Jésus parle du temple et on se demande si c'est le lieu dont il parle. Ou lui-même. Au chapitre 3, il parle de la nouvelle naissance et on se demande s'il parle d'un recommencement, d'une nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que ça signifie? Au chapitre 4, il y a une eau. C'est l'eau de ce puits ou c'est une autre eau dont il parle? Il y a des jeux de mots tout au long de cet évangile de Jean. Et ici, le jeu de mots vient sur le fait de voir. Selon Jésus, il est possible de voir physiquement, mais de ne pas voir spirituellement. Et la force de la démonstration ici, c'est qu'un homme qui ne voit ni physiquement, ni spirituellement, va voir. Matthieu l'a relevé dimanche dernier, la guérison d'un aveugle né, ça a provoqué une telle surprise, un tel choc, que les gens se demandent si c'est bien lui. Ils ont de la peine à le reconnaître. Il l'interroge une première fois et il doit s'expliquer sur la manière dont ça s'est passé au verset 11. « L'homme qui s'appelle Jésus a fait de la boue et il me l'a appliqué sur les yeux. Il m'a dit, va te laver à Siloam. » D'accord, on a entendu, mais c'est toujours difficile à croire. Alors on va trouver des personnes bien en vue, des gens respectés, des théologiens du moment, les leaders de la synagogue, et ils seront peut-être à même de démêler cette affaire. On les amène chez les pharisiens. Et à leur tour, les pharisiens le demandent, mais comment ça s'est passé? L'homme, pour la deuxième fois, doit s'expliquer sur la manière dont ça s'est passé. Et quand ils lui demandent ce qu'il en pense, ben lui, il dit, je pense que c'est un prophète. Mais l'affirmation, elle est trop dure à entendre pour les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font venir les parents. On aimerait parler aux parents, vérifier avec eux s'il était bel et bien aveugle de naissance. Les parents se sentent sous pression et on sent qu'ils ont peur d'être identifiés à Jésus et donc d'être exclus de la synagogue ou du temple. Et la seule chose qu'ils sont prêts à dire, ou les deux seules choses qu'ils sont prêts à dire, c'est que oui, il est bien né aveugle. C'est bien notre fils, mais il est assez grand pour parler pour lui-même. Et il se retire. Pour les pharisiens, ça suffit pas. On fait revenir cet homme qui a été guéri. Une fois encore. Et une fois encore, on lui pose des questions. Et dès le début, il donne la couleur. Là, on commence pas avec des questions. On donne la couleur. Donne gloire à Dieu, verset 24. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. Mise en garde, donne gloire à Dieu. Une affirmation. Autrement dit, n'essaie même pas de prétendre que Jésus est quelqu'un de recommandable. Comment est-ce que cet homme répond? Probablement par une des déclarations les plus touchantes du Nouveau Testament. Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est pas magnifique comme réponse? Là où il en est, il ne sait pas encore beaucoup sur Jésus. Mais il sait une chose sur laquelle on ne transigera pas. Il était aveugle, maintenant il voit. On peut manœuvrer dans un sens, dans un autre. Et là, les pharisiens sont agacés parce qu'ils voient cet homme qui tient bon sur son témoignage. Et il le répond avec une certaine audace, alors qu'il lui demande une fois encore de s'expliquer sur la manière dont ça s'est passé. Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas entendu. Pourquoi vous voulez l'entendre à nouveau? Voulez-vous devenir ses disciples? Et là, le ton monte chez les pharisiens. Ils sont en colère, fâchés qu'on puisse penser ça. Ils l'insultent et le poussent à se positionner. Lui, il revient sur la grandeur de ce miracle. Mais comment est-ce qu'il aurait pu faire une chose pareille s'il n'était pas envoyé par Dieu? Pour les pharisiens, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ils lui disent avec venin, toi, tu es né tout entier dans le péché. Et c'est toi qui nous instruis. C'est intéressant, c'est la deuxième fois dans ce chapitre que cet homme est suspecté d'avoir commis un péché qui fait qu'il est aveugle. La première fois, c'était les disciples, mais c'était sous une forme de question. Les disciples avaient demandé à Jésus, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle? Mais ici, c'est même plus une question, c'est une affirmation. Tu es né tout entier dans le péché. La virulence va au point où il est excommunié. Il y a des endroits dans le monde où, aujourd'hui encore, le fait de croire en Jésus et d'affirmer qu'on croit en Jésus, ça va signifier un rejet, des conséquences lourdes, expulsion, emprisonnement, parfois même la mort. Vous l'avez entendu encore récemment aux nouvelles. Ici, on peut pas dire que les parents ont protégé leur fils. Demandez-lui, il est assez grand pour répondre pour lui-même. Il n'y a aucun soutien de leur part. Mais il y a même des endroits où ce sont les parents eux-mêmes qui sont la menace. GBU se retrouve les vendredis soirs ici dans les locaux, en bas, pour la soirée Interfac. Et sur les sites des GBU, on peut trouver des nouvelles des différents pays où les étudiants étudient la Bible et prient ensemble. On peut trouver des sujets de prière, par exemple celui d'une jeune femme qui s'est convertie dans une université au Sénégal, qui s'est fait confisquer sa Bible, son portable, par ses parents, et qui ensuite a été emmenée à l'hôpital, les parents affirmant qu'elle était devenue folle parce qu'elle était devenue chrétienne. Et même sans aller dans de tels extrêmes, on peut vivre ce genre de rejet, ici en France, toujours dans les GBU. David Brown, dans son livre « Servir à nos Français », mentionne le message qu'un syndicat d'étudiants avait posté sur son site en parlant des JBU. Non à l'obscurantisme, secte hors des universités. Et peut-être même qu'à l'échelle individuelle ce soir, il y en a qui expérimentent ce genre de rejet, tout simplement parce que vous vous dites chrétien, parce que vous croyez en Jésus. De manière directe ou indirecte, on vous regarde de haut, on vous prend pour un illuminé. Et c'est encourageant de savoir que dès le début, Jésus lui-même et ceux qui l'ont suivi ont vécu ce genre de rejet. Jésus entend dire que l'homme a été exclu et c'est là qu'il va vers lui. Il va lui aussi lui poser une question, mais le ton et la motivation sont tout autres. Toi, verset 35, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ? Fils de l'homme, c'est une référence au prophète Daniel. Et là, dans ce contexte, il semble que ce soit comme la révélation de Dieu vis-à-vis des êtres humains. Dieu tel qu'il s'est révélé à l'être humain. Jésus lui-même, et Jean l'a dit dès le début de son livre, est celui qui révèle Dieu. Il est la parole qui a été faite chair. Et cet homme répond, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Tu l'as vu. Celui qui parle avec toi, c'est lui. Magnifique dévoilement, une double vision. Il voit physiquement, il voit spirituellement. La réaction de cet homme devant une telle révélation, c'est « Je crois, Seigneur ». Et il se prosterne devant lui. Jésus, la lumière du monde, est à l'œuvre. Sa lumière brille et permet à un homme né aveugle de voir. Il est à l'initiative pour lui ouvrir les yeux, physiquement mais aussi spirituellement. Une chose qu'on peut relever dans ce passage, c'est que cette révélation, sur un plan spirituel, elle a été progressive. Vous avez remarqué la manière dont il parle de Jésus dans ce passage. Au verset 11, l'homme qui s'appelle Jésus, ça reste vague. Il dit ensuite, au verset 17, que c'est un prophète. Au verset 33, qu'il a été envoyé par Dieu. Verset 38, il est prêt à entendre qu'il est le Fils de l'homme. Au verset 38 toujours, il l'appelle Seigneur. Comme une progression dans sa compréhension de qui est Jésus. Un émerveillement. Et c'est un encouragement pour nous aussi. Il va falloir découvrir encore. À son sujet, il va falloir progresser dans sa connaissance. La lumière a triomphé de l'obscurité, à la fois physique et spirituelle. Un homme né aveugle, mais qui voit spirituellement, physiquement. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on voit dans ce chapitre, et on arrive à un constat inverse. Ceux qui voient ne voient pas. Comment comprendre une telle affirmation ? Quand ceux qui voient deviennent aveugles. Je pense qu'ici, tout le monde a apprécié à un moment ou à un autre regarder une série détective. Ça semble être universel. Les détectives comme Hercule Poirot, Sherlock Holmes ou l'inspecteur Colombo. Alors tout ça, ça date. Ça dit mon âge. Bon, j'étais pas auteur de Sherlock Holmes quand même. Mais vous connaissez les plus récentes. Mais ces éléments qui font une intrigue, des personnes qui voient juste, qui arrivent à rassembler les éléments, élucider un mystère, ça passionne. Et dans notre récit, quelque chose d'aussi surprenant et mystérieux qu'un homme guéri de sa cécité, ça suscite un intérêt. Alors qu'il est amené aux pharisiens, on voit que les pharisiens, eux, ils prennent ça au sérieux. C'est une enquête qu'ils veulent mener. Et plus qu'une enquête, une poursuite judiciaire. Ils prennent ça très au sérieux. Mais quand vous regardez l'enquête, vous voyez qu'elle patine. Elle finit en queue de poisson. Et ce sont les mauvais qui sont accusés. Enfin, on n'accuse pas les bons coupables. Les pharisiens commencent par demander à cet homme comment il a retrouvé la vue. Il leur explique. Et la conclusion, c'est quoi ? Cet homme n'est pas issu de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. Tout se voit dans l'acte d'avoir fait de la boue ou alors d'avoir guéri un homme le jour du sabbat, pour eux, ça se fait pas, c'est inacceptable. Peu importe la raison pour laquelle Jésus l'a fait, peu importe le fait qu'il restaure le jour par excellence où on l'a restauré, peu importe le fait qu'il soit le maître du sabbat et qu'il puisse déclarer ce qui est bon pour l'homme, peu importe le fait que le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, pour eux, cet homme n'est pas issu de Dieu. Et où va l'enquête ensuite ? Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. On n'y croit pas. Et on va faire venir le papa et la maman. On va faire venir le papa et la maman. Et on sent dans le ton qu'en fait, eux, ils plaisantent pas. Est-ce là votre fils dont vous, vous dites qu'il est né aveugle ? Vous avez vu le « vous » ? Comment se fait-il donc qu'il voit maintenant ? Les parents, ils veulent pas être dans le box des accusés et ils répondent, ben, il est assez grand pour répondre pour lui-même. Alors les pharisiens font venir le fils une deuxième fois et l'interrogent et lui disent, donne gloire à Dieu, nous savons nous que cet homme est un pécheur. Et là, l'enquête, on voit, elle tourne à la présomption. Ils savent déjà que Jésus est coupable. Et ils reprennent ensuite l'interrogatoire. Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Et l'homme répond avec sincérité, je vous l'ai déjà dit, mais vous n'entendez pas. Et mine de rien, vous intéressez pas mal à Jésus. Ouh, alors là, ça fait chauffer la marmite. C'est toi qui es disciple de celui-là. Nous sommes disciples de Moïse. Autrement dit, Jésus n'est pas fréquentable et toi, tu devrais plutôt t'aligner avec nous. On est avec Moïse dans le camp. L'homme commente en fait sur la guérison qu'il a faite, enfin, qu'il a vue. Elle doit venir de Dieu. Et leur réponse, elle est pleine de venin. Toi, tu es né tout entier dans le péché. Et c'est toi qui nous instruis. Tout entier dans le péché. Et maintenant, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous voyez la lumière pénétrer au plus profond chez ces personnes ? Est-ce que vous voyez cette lumière aller de plus en plus loin, jusqu'à faire sortir ce qu'on ne pensait pas pouvoir sortir ? Des paroles aussi dures, aussi méprisantes, la lumière va les faire sortir. Si on est allé voir les pharisiens au départ, c'est parce qu'on les croit intègres, respectables, bien en vue, sages, des théologiens. Mais ça commence avec une intransigeance exagérée. Ça se fait pas le jour du sabbat. C'est tout. Ensuite, ils sont bornés dans leur incrédulité. Et même s'ils ont interrogé en pensant que c'est bien Jésus qui a guéri cet homme, ils sont prêts à revenir en arrière. Après tout, c'est probablement pas ce qui s'est passé. Et par la suite, quand on bouscule leurs présupposés, ils tiennent leur position, bétonnent leur position. Ils sont hyper sûrs d'eux-mêmes. Quand l'homme les bouscule encore en affirmant que Dieu a manifesté une œuvre dans sa vie, toi, tu es né tout entier dans le péché. Ça aurait pu rester dans leur pensée, dans leur esprit. Mais c'est sorti. Ces paroles ont bel et bien été entendues. Et si vous étiez dans la peau de ces pharisiens, si on venait vers vous parce que vous êtes quelqu'un de très respectable, parce qu'on apprécie chez vous une certaine intégrité, droiture, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Au départ, ça pourrait paraître comme une flatterie, quelque chose qui vous met en valeur. Mais si cette lumière, elle allait jusqu'au plus profond, révélait en vous et en moi des choses qu'on n'a pas envie que les gens entendent. Vous pouvez vous rendre à une soirée, vous voyez quelqu'un qui, dans cette soirée, par son comportement ou par une erreur, une offense qu'il a commise dans le passé, fait surgir une haine vis-à-vis de lui, une hostilité. Vous n'avez pas envie de le voir ou de la voir. Et là, vous vient à l'esprit des choses que vous voudriez qu'il lui arrive, des choses graves. Et si la lumière venait briller là, si elle révélait cette pensée-là, vous sortez de la bouche de métro, vous voyez un dixième sans-abri, vous travaillez dur, vous avez eu une dure journée, vous avez acquis votre position à la sueur de votre front. Et là, vous vient la pensée, mais si lui, il en est là, c'est certainement qu'il l'a mérité, non? Et si la lumière venait briller, à ce moment-là, dans votre esprit, vous rendez un service à quelqu'un qui vous demande régulièrement des services et cette personne, selon vous, ne montre pas assez de reconnaissance. Il vous vient à l'esprit des paroles que vous pourriez lui dire et qui dévoileraient en fait que vous ne le faites pas par amour pour lui ou pour elle, mais tout simplement pour une satisfaction personnelle ou pour justement la reconnaissance. Vous imaginez si cette pensée venait en lumière? Jésus est la lumière du monde et sa lumière, elle est pénétrante. Elle va jusqu'au plus profond de notre être. Sans parler de ce genre de pensée, l'intransigeance nous a tous caractérisés. Le fait d'être borné nous a tous caractérisés. L'incrédulité nous a tous caractérisés. Le fait d'être convaincu de notre position nous a tous caractérisés. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il est temps de revenir à cette conclusion de Jésus avec laquelle on a commencé. Verset 40, « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens sont là pour entendre ça, et il leur vient cette question. Serions-nous par hasard, nous aussi, les aveugles? Et dans cette question, il ne faut pas entendre, avec tout ce qu'on sait d'eux, une sincérité comme un désir de voir, mais tout simplement la présomption qu'eux, ils voient. Ils veulent entendre Jésus dire « Oui, vous êtes aveugles ». Et là, ce serait Jésus l'arrogant, ce serait Jésus le prétentieux. Jésus surprend par la manière dont il répond. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Et lui aussi joue d'ironie. Si seulement vous étiez aveugle. Autrement dit, si seulement vous étiez conscient que vous ne voyez pas spirituellement. Alors vous seriez sur la bonne voie. Alors vous seriez sur la bonne voie. Mais vous prétendez voir. Et donc votre péché persiste. Comment est-ce que nous, on va réagir vis-à-vis de la lumière? Est-ce qu'on va tenir notre position en prétendant que oui, on voit très bien et je ne suis pas dans l'erreur? Ou alors est-ce qu'on va reconnaître que Jésus est la lumière du monde? Reconnaître ses péchés qu'il met en évidence dans ma vie? Est-ce que je vais reconnaître en Jésus la lumière du monde et saisir que le fait que son intervention, c'est pour mon bien, que j'ai besoin de cette lumière? Est-ce que j'ai compris que Jésus est la lumière du monde et qu'il est venu, lui, vivre dans les ténèbres? À la croix, c'est lui qui encaisse toutes les ténèbres que nous méritions, manifestant toujours qu'il est la lumière quand on l'accuse, quand on le blesse par les paroles. C'est des paroles de la Bible qu'il cite. C'est une demande de pardon pour ceux qui le haïssent, qu'il dit. Mais en faisant cela, en vivant ce qu'il a vécu à la croix, il nous dit qu'il est prêt à encaisser les ténèbres sur lui pour nous permettre d'être pardonnés. Qu'est-ce qu'on va faire de cette lumière? Il nous invite à l'accueillir, à reconnaître notre état et à le suivre. Parce que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette lumière qui a brillé dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Et nous te demandons la grâce, comme ça a été le cas pour cet homme, de voir et de voir de mieux en mieux. Garde-nous, Seigneur, de cette arrogance qui nous colle à la peau et qui nous caractérise jour après jour. Accorde-nous, au contraire, la joie d'accueillir cette lumière qu'est Jésus, de croire en lui et de marcher à sa suite. Pour la gloire de ton nom. Amen.